Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue dans ce 67e épisode, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau podcast fait partie d'une série en collaboration avec Plug & Start et la Technopole de l'Aube. Plug & Start, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à Troyes, dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis, la réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plug & Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à 3 journées intenses pour tester ses projets et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. C'est également l'opportunité de profiter de toutes les ressources d'un écosystème, une collaboration durable et de proximité avec le réseau technopolitain, la mise à disposition d'une structure d'accueil solide et réactive, la mobilisation des collectivités territoriales et des décideurs, l'intégration d'un incubateur innovant connecté à des laboratoires de recherche et un accompagnement pertinent et efficace pour vos levées de fonds. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Jonathan Lalinec, le fondateur et CEO de Split, la solution de co-abonnement qui va faire du bien à votre portefeuille. Jonathan a participé à Plug & Start en 2019 et l'événement lui a notamment permis de trouver son business model. Dans cet épisode, il me raconte pourquoi a-t-il participé à Plug & Start, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement, que retient-il de ses 3 journées intenses, son parcours avant d'entreprendre, son histoire et sa première entreprise revendue à Webedia, le concept de Split et les grandes étapes qui les ont fait dépasser les 470 000 utilisateurs en moins de 3 ans. Sachez que tous les épisodes de cette série Plug & Start sont également disponibles intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, de partager l'épisode à votre réseau et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous et à mardi pour le 3e épisode de cette série. Eh bien salut Jonathan, comment vas-tu ?
Salut François, ça va très bien, merci.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série en collaboration avec Plug & Start, qui est un événement, un très bel événement qui a lieu les 29 et 30 juin et 1er juillet prochains, auquel tu as participé en 2019, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, oui.
Dans cet épisode, on aura l'occasion forcément de mettre en avant et de parler de cet événement, mais aussi de parler de ton parcours et de parler de Split, puisque tu es le fondateur et le CEO de Split. C'est une solution qui permet de partager le prix d'un abonnement avec ses proches ou avec un tiers. Je ne spoil pas plus ta solution.
Tu l'as très bien expliqué en quelques mots, c'est parfait.
Et donc on démarre justement pour parler de Plug & Start. Tu as participé à cet événement en 2019. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as participé à cet événement en 2019 ?
Alors pourquoi on a participé ? On n'avait pas tellement vocation en fait à participer à ce type d'événement, on ne savait même pas que ça existait. Pour la petite histoire en fait, le Plug & Start nous a contactés sur une page Facebook. Split n'existait pas encore, on avait créé uniquement une landing page où on faisait croire qu'un service existait, mais en effet derrière il n'y avait pas grand chose. Et l'une des personnes du Plug & Start est venue nous voir en demandant si ça nous intéressait de participer à cet événement. J'en ai parlé avec mes associés et on a trouvé ça plutôt cool parce que c'était le bon timing, vraiment ce que je disais aussi aux équipes de la Technopole aujourd'hui, c'est qu'ils nous a contactés vraiment à un moment où on était ouvert à ce type d'événement pour essayer de confronter notre projet à d'autres personnes que notre entourage. Et en plus de ça, bah voilà, ça aurait été à Marseille ou à Bordeaux, ça faisait un peu loin pour se déplacer et participer à cet événement parce qu'on était... de région parisienne, on s'est dit ça peut être sympa. Sur 2 jours, on a regardé les vidéos de l'événement, on a vu les grands comptes qui étaient présents, on a vu tous les interlocuteurs avec qui on pouvait échanger et on s'est dit on va tenter notre chance.
Plug & Start, c'est à Troyes, c'est à 1h30 de Paris en train. Est-ce que tu peux me décrire cet événement ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet événement ?
Alors c'est très riche, c'est très complet en fait. C'est vrai que c'est souvent ce qui ressort de cet événement, c'est qu'on enchaîne pendant 2 jours et demi. Je donnais l'analogie en fait, je comparais ça à un voyage organisé, c'est-à-dire qu'on est pris par la main du début jusqu'à la fin. On pense à rien d'autre qu'à sa société et on est dès le premier soir, on est mis dans le bain parce qu'on a une première soirée coworking où on échange un peu avec les équipes de la Technopole, où on échange avec les autres entrepreneurs qui présentent leur dossier. Le deuxième jour, on enchaîne avec plein de rendez-vous avec différents interlocuteurs. En fait, pendant 2 jours et demi, on enchaîne totalement et sur des sujets totalement différents. Donc voilà, c'est super riche en contenu en tout cas.
Ok, donc c'est super intense.
Super intense, très fatigant à la fin, mais finalement, on en revient. Enfin, quand on repart de là-bas, c'est vrai qu'on en parlait avec mes associés, on était nostalgiques, on a l'impression d'être parti en colonie de vacances pendant 2 jours et demi parce qu'on s'entend super bien avec les autres entrepreneurs. On dormait dans le même hôtel, donc voilà, on rigolait aussi ensemble dans le car. Enfin voilà, on en profite vraiment pour échanger. C'est pas uniquement échanger avec les gens de la Technopole, échanger avec les grands comptes, échanger avec les partenaires. C'est aussi échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont le même stress que nous. Donc c'était super intéressant.
Ça crée des liens, ça crée des connexions. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant ?
Alors professionnellement, j'y allais en fait avec un but précis dans le sens où moi j'ai déjà créé des sociétés avant, donc il y avait certains sujets que je maîtrisais plutôt bien, en tout cas que je connaissais pour avoir déjà levé des fonds ou autre, donc il y avait vraiment dans les interlocuteurs, et ils le voyaient en échangeant avec nous, qu'il y avait certains sujets qu'on maîtrisait, mais d'autres beaucoup moins, sur la partie juridique, sur la partie financement, subvention notamment. Donc voilà, ça nous a permis d'échanger avec des interlocuteurs qui ont pris le temps de découvrir notre projet, et c'est pas forcément des choses qui sont accessibles, encore moins en Île-de-France quand on est de la région parisienne, pour discuter avec un conseiller BPI, expliquer son projet, lui demander de l'aide, c'est un peu plus compliqué. Là on est vraiment directement avec la responsable de la BPI qui va pouvoir nous aider, nous conseiller sur des solutions par rapport à notre projet.
Ouais, ce qui est important de préciser, c'est que peu importe la problématique, justement Plug and Start va apporter beaucoup de précision et beaucoup de valeur justement sur des problématiques précises pour les entrepreneurs.
Exactement. Alors j'ai plus en tête le nombre de thématiques qui sont couvertes par l'événement, mais bon, la dernière fois on nous posait la question, est-ce que vous avez des spécialistes de la crypto-monnaie ? C'est vrai qu'après, si on rentre dans des sujets très spécifiques, je pense pas qu'il va y avoir un spécialiste pour tous les sujets, mais en tout cas quand on veut entreprendre et qu'on se pose des questions, que ce soit sur le statut de sa société, que ce soit sur des subventions, sur l'UX, sur le développement, voilà, il y a toutes les sociétés qu'il faut pour pouvoir commencer son projet, en tout cas sans rentrer dans des marchés de niche bien entendu.
Ouais, donc ça peut être un véritable changemaker dans son aventure entrepreneuriale.
Exactement.
Est-ce que tu peux me raconter ton moment fort de l'édition 2019 de Plug and Start ?
Alors, je retiens 2 moments forts, mais pas pour les mêmes raisons. Un moment fort parce que c'était vraiment le stress ultime et je me rends compte maintenant, en fait, avec le recul, finalement, je me stressais pour pas grand-chose, mais c'est la session de pitch. Parce qu'on a vraiment un projet finalement qui... C'est encore plus compliqué de pitcher une société qu'on vient de démarrer. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal à le faire parce que je la connais bien, j'ai des chiffres, j'ai plein de choses à dire et c'est un peu plus simple que d'apprendre par cœur finalement un pitch. Donc j'ai fait toutes les erreurs du débutant, mais il ne faut pas avoir peur de ça justement, on est là aussi pour ça. Donc ça, c'était vraiment le stress. Je me rappelle que j'ai l'impression de rentrer sur un ring de boxe. Je tournais en rond, mes associés me parlaient, je disais non, ne calculez pas. Enfin, j'étais dans mon coin et je voulais voir personne, je tremblais. Enfin, c'était la panique totale. Donc ça, c'est le moment fort, on va dire, plus pour la partie émotion. Mais ce que je retiens aussi, c'est... Il faut l'avouer, le Plug and Start, il y a aussi la région qui soutient, la région Grand Est, la ville de Troyes qui soutient cet événement. Ce qu'ils veulent, c'est faire l'effet waouh, notamment pour des gens qui viennent d'Île-de-France et qui ne connaissent pas la ville. Et je me rappelle de la soirée qui était juste impressionnante. On était dans un lieu magnifique et tout était pris en charge. Enfin, c'était une super soirée, donc voilà, c'est un moment fort aussi pour moi de l'événement.
Ok, Plug and Start, ça n'existe pas que depuis 2019, ça existe depuis 2002, donc l'événement en fait, c'est 20 ans cette année. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement ?
Alors, ce que je retiens avec le recul, c'est on ne regrette absolument pas Plug and Start. Pourquoi ? Après, je pense qu'on reviendra sur le projet Split plus en détail, mais on a toujours laissé notre siège social. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est de région parisienne. La ville de Troyes, je crois que j'avais fait quelques allers-retours, comme beaucoup, pour découvrir les usines de vêtements à l'époque. Mais je connaissais pas la ville plus que ça. Et finalement, on a laissé notre siège à Troyes, avec notre service client qui est sur place, etc. Parce qu'en fait, l'événement nous a permis de nous ouvrir énormément de portes. Et ce que je dis aujourd'hui, finalement, participer au Plug and Start, c'est un peu comme avoir ça dans un CV. Quand on commence une une société. Parce que le fait de dire j'ai participé au Blog & Start, j'ai été sélectionné dans les dossiers, quand vous allez voir la région pour une demande d'aide, de subvention ou de prêt, quand vous allez voir une banque qui est installée dans la région, quand vous allez voir la BPI, bah, ça vous ouvre toutes les portes.
Ouais.
C'est un événement qui est populaire, qui est connu dans la région. Donc le fait, ne serait-ce que de participer à l'événement, vous ouvre des portes. Après, il y a le côté concours Plug and Start où en effet il y a un classement, mais finalement ce que retiennent les interlocuteurs sur place, c'est le fait d'avoir déjà un dossier qui a été sélectionné. On était une vingtaine de dossiers à avoir participé en 2019 sur près de 500 dossiers. Donc déjà c'est une fierté et voilà, c'est avec le recul, c'est toutes les aides et vraiment c'est pas du pipeau parce qu'on vous on vous parle beaucoup en fait de ce que vous allez pouvoir avoir si vous installez votre siège, si vous rejoignez la Technopole, si vous participez au Plug and Start. On peut être assez réticent au début en se disant bon, bah, c'est peut-être aussi le fait d'essayer d'entraîner des sociétés qui ne sont pas forcément de Troyes et d'Île-de-France. Et en fait, la réalité tout autre, c'est que c'est même plus que ce qu'on pensait. Nous, on a la concierge bébé qui nous appelle, qui est proactive. On a la région qui nous a toujours soutenus. Donc non, c'est vraiment, je le conseille à beaucoup de sociétés et encore plus des sociétés qui seraient en Île-de-France, sur d'autres régions qui sont beaucoup moins accessibles. J'ai envie de dire, pour moi, la région Grand Est et Troyes, en tout cas, c'est presque un petit village et un petit écosystème. Mais justement, c'est encore plus simple d'accès pour ces entrepreneurs qui veulent être bien conseillés.
Ouais, ma question d'après, c'était est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer ? Mais tu as complètement répondu à cette question.
Voilà,
justement, en mettant en avant justement toute la richesse de l'événement et tout ce que ça peut apporter justement aux entrepreneurs qui vont candidater à cet événement. C'est important de préciser qu'effectivement, il y a 20 projets innovants qui sont sélectionnés. Donc, ce n'est pas on candidate, on rentre et on participe à l'événement. Ce n'est pas ça.
Non.
C'est candidature et sur sélection. La prochaine édition a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain. Et les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Donc, tout projet innovant peut candidater et peut potentiellement avoir une chance ou pas de participer à la prochaine édition. Donc c'est important de le préciser. Et puis, pourquoi pas créer une entreprise comme Split par la suite. Et justement, on va en parler dans quelques secondes. On passe justement au sujet du podcast qui est ton parcours et ton business. La première question, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre ?
Alors, avant d'entreprendre, en fait, moi aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans et j'ai créé ma première société. J'ai entrepris pour la première fois quand j'avais 19 ans. C'était par pur hasard. Il n'y avait pas d'ailleurs tous ces événements qui existaient à l'époque. Hein. C'était, je crois que la BPI s'appelait Oseo et encore, je crois qu'Oseo n'existait même pas à cette époque-là. J'avais un projet professionnel, donc j'étais en BTS de communication visuelle et j'avais comme vocation de devenir maquettiste. Je travaillais dans la presse jeunesse notamment. Donc j'étais en alternance à Bayard Presse. Donc si vous connaissez un peu, ça va peut-être vous rappeler votre enfance, mais les J'aime lire, les Astrapi, les Okapi, Anko. J'étais maquettiste dans cette société en tant qu'alternant. Et du coup, je devais me tourner plus vers un métier dans le print. Donc quand on dit dans le print, dans la presse, dans l'édition. Et je suis tombé par hasard sur le web en créant un petit site personnel pour des amis qui étaient graffeurs. Donc j'ai fait du HTML et ça m'a éclaté de faire ça. Et du coup, pendant mes études en BTS, j'ai souhaité me convertir sur la partie web design, créer finalement des chartes graphiques pour des sites internet. Et pour ce projet professionnel de BTS, j'avais comme ambition de créer une plateforme de blog. Il faut savoir qu'on était en 2003 à cette époque-là. Les Skyblogs avaient le vent en poupe. Hein. Tout le monde en parlait. Et je trouvais les Skyblogs très très moches. Et vu que j'étais graphiste, je me disais, mais c'est quand même dommage. Ce qui était le cas. Et encore aujourd'hui, si vous regardez, d'ailleurs, ça pourra, pour certains, peut-être vous pouvez vous amuser à taper votre pseudo. Vous allez peut-être retrouver votre Skyblog de l'époque. Vous aurez peut-être un peu honte, mais voilà, c'est du rose fluo, du noir, etc. Il y avait, ça donnait pas envie de lire, en tout cas, les Skyblogs. Je me suis dit, j'ai envie de créer une plateforme de blog où on va pouvoir totalement personnaliser sa page. Ce qui est devenu les Wix aujourd'hui, finalement. Enfin, toutes les plateformes qui permettent de créer des sites clés en main. Et j'ai créé donc une plateforme qui s'appelait alors tout au début Oldieblog et j'ai mis ce projet professionnel de BTS en ligne en m'attendant absolument à rien parce que j'avais jamais entrepris, je ne savais même pas comment monétiser un site, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un site internet. Et quand j'ai mis en ligne ce projet, finalement on a eu un bouche à oreille énorme dessus. Va savoir pourquoi, parce que je connaissais rien en SEO, mais on était très bien référencé sur créer mon blog gratuit. Ce qui fait qu'on a une audience énorme et on avait cumulé plus de 500 000 blogs créés au bout d'une année sur la plateforme.
Dingue.
Et tout est parti de là. Donc avec tous ces blogs qui se sont créés, il a fallu apprendre à monétiser tout ça. Donc j'ai appris un peu le business des régies publicitaires, monétiser son site avec les termes qu'on utilise moins aujourd'hui avec des Facebook & Co, mais le CPM, le CPC, etc. Et nous, on était notamment payés au CPM parce qu'on avait une plateforme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. On avait cumulé vers la fin 14 millions de visiteurs uniques par mois en France et on faisait partie des 30 plus grosses audiences françaises sur cette plateforme de blog. Donc voilà, on intéressait beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'industriels. J'ai levé 950 000 euros sur cette société. Donc on avait un business qui tournait plutôt bien jusqu'à un certain moment où finalement les réseaux sociaux sont arrivés, la publicité a totalement dégringolé et la société a été revendue en 2015 au groupe Webedia. C'est un beau groupe qui a racheté d'ailleurs tous nos concurrents en fait. Ouais. Webedia rachetait, c'était à l'époque où ils rachetaient Allociné, jeuxvideo.com. Ils ont racheté Overblog, notre concurrent. Ils ont racheté notre plateforme. Finalement, ils savaient monétiser cette audience, donc ils ont racheté toutes les plateformes de blog qui existaient, qui étaient indépendantes. Suite à la vente de ma société, j'ai créé une agence multi, où je voulais faire profiter à nos clients de toutes les connaissances que j'avais cumulées en fait dans cette première société. Donc on faisait autant de la charte graphique, de l'UX que du conseil marketing. C'était un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout propre parce qu'on avait des équipes qui étaient des anciennes équipes de ma précédente société. Et du coup, on faisait plutôt bien notre travail. On a eu des très grands comptes pour des très grands comptes. On avait beaucoup de gros clients. Et au bout de quelques années, en fait, je cherchais à recréer un projet parce que je m'ennuyais un peu dans cette activité. Je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas fait pour travailler pour des sociétés, mais je voulais créer mon produit. Mon plaisir, c'est de créer mon propre produit et de pouvoir le faire grossir.
Le format agence n'était pas.
C'était pas le mien en tout cas.
N'était pas fait pour toi.
C'était pas le mien. Alors du coup, j'ai créé une première société qui existe et qui marche très très bien depuis quelques mois, qui s'appelle Stiker. Donc j'ai cofondé ça avec Julien Boisseau, qui est un ami. Et en fait, on était parti d'un constat. On était en voyage au Portugal et pendant toute une semaine, on n'avait pas accès à des. On avait une grande piscine, mais on n'avait pas de transat. Et quand la propriétaire est arrivée nous voir à la fin de notre séjour, hein, on lui a dit c'est dommage quand même, vous avez une belle piscine, mais aucun transat pour se poser au bord de la piscine. Et elle est partie nous montrer, regardez dans le garage sous les bâches c'était. Et on s'est dit mais en fait il manque quelque chose, il manque un livret d'accueil, quelque chose qui puisse nous le dire. Et même si un livret d'accueil existait, il serait écrit en portugais, ce serait bien de pouvoir l'écrire en français. Et on a créé Stiker, qui est en fait le livret d'accueil digital, qui permet en fait à n'importe quel locataire avec un QR code. Donc on avait créé, on utilisait le QR code bien avant qu'il soit démocratisé récemment, et qui permettait de retrouver toutes les informations sur le logement, que ce soit pour des propriétaires Airbnb, on le fait aussi maintenant pour des hôtels, on le fait aussi pour tous les gîtes de France, pour Maeva, etc. Où les gens vont rentrer dans le logement, ils vont pouvoir voir ce qu'il y a autour du logement, ils vont pouvoir se connecter directement au Wi-Fi avec ça, ils vont pouvoir avoir accès aux portes d'entrée, etc., tous les codes qu'il faut. Donc ça, c'est une société que j'ai cofondée avec Julien et finalement je me suis mis un peu en retrait parce que j'ai eu l'idée de Split en parallèle et l'activité de Split a démarré après courant 2019.
On est allé super vite et
désolé.
Ah non, c'est,
mais il y avait quand même il y avait à peu près 16 ans à résumer.
Effectivement, ça permet de visualiser très rapidement ton parcours justement et toutes les expériences qui fait que tu es un véritable serial entrepreneur et que effectivement toi l'entrepreneuriat t'es devenu entrepreneur assez naturellement sans même te poser la question de est-ce que je vais devenir entrepreneur en fait,
oui.
sans même penser au mot entrepreneuriat, sans même savoir potentiellement ce qu'était l'entrepreneuriat.
Et plus que ça, c'est que j'en avais la crainte et je me rappelle de ma mère qui me disait mais attends, t'as un CDI qu'on te propose chez Bayer Press, enfin tu peux travailler là-bas, c'est quand même très risqué, tu sais, ton père il a monté une boulangerie, tu vois ce que ça a donné, enfin voilà, on était plutôt dans la famille, on n'est pas une famille d'entrepreneurs et c'était plutôt une crainte de se lancer là-dessus. Et finalement, je le regrette absolument pas. Je m'éclate et j'ai tout appris là-dessus. Et
effectivement, le CDI est vu comme un Graal. C'est clair que prendre le choix, enfin faire le choix d'entreprendre, ça peut être particulier.
Ouais.
J'aimerais revenir sur ta première expérience entrepreneuriale, qui est effectivement la boîte que tu as revendue à Webedia. Au moment où tu revends cette société à Webedia, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? Parce que vendre une première boîte, c'est quand même particulier. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Alors, j'ai vraiment résumé, j'ai oublié de parler des côtés négatifs de cette première expérience, il en faut bien. C'est que je l'ai revendue dans une... on va dire, dans un moment très difficile, parce que j'ai parlé en effet de notre business qui fonctionnait très bien quand c'était les belles années du CPM, comme on le dit, au coup par mille. Mais quand l'arrivée des réseaux sociaux, enfin avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça devenait très compliqué de monétiser un site. Et d'ailleurs, je me suis promis de ne plus jamais monter une société monétisée par de la publicité. C'est pire que de la crypto-monnaie, c'est pire que de la bourse, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver d'un mois à l'autre avec... avec un MRR à 0 euros et l'autre mois à 30 000. Enfin, ça veut rien dire et c'est super compliqué. Et en fait, on n'arrivait plus à monétiser le site. Donc, et on avait des impayés, notamment sur certains fournisseurs. On a été en redressement judiciaire. On a été sauvés par un ami en fait, qui a réinjecté de l'argent dans la société, qui nous a permis de survivre et sortir de ce redressement judiciaire. Et c'est à ce moment-là que la boîte a été revendue. L'erreur que je retiens, en tout cas, que j'ai faite, c'est que pendant un moment, on était... très très bien valorisé. On avait notamment la famille Mullier qui nous a fait une proposition de rachat pour ma plateforme. Ils avaient à l'époque, je crois que ça existe toujours, hein, Cuisine AZ, etc. Ils avaient créé vraiment un pôle média et voulaient nous racheter. On avait refusé. Pourtant, la valorisation était assez belle et du coup, on a revendu à Webedia, mais on a revendu bien trop tard. Donc, et ce que je me dis aussi, c'est que c'était mon tout premier projet. C'était clairement mon bébé. Donc, je m'accrochais énormément à ce projet. Je me voyais pas m'en débarrasser en fait, mais voilà, c'est une erreur.
Cette première aventure, ça a duré 10 ans, je crois.
Alors, officiellement, quasiment. La boîte a été créée en France en 2007, mais l'activité existait depuis 2005.
Ouais.
Mon associé était américain, donc on a créé une LLC et finalement, on a levé des fonds en France, donc on a créé la SARL en France en 2007. Donc, entre 2005 et. Ouais, exactement, 10 ans.
Pile poil. Donc, une première aventure riche en apprentissage avec des très hauts et des très bas.
Exactement.
Mais finalement, parfait pour potentiellement. Rebondir par la suite en fait. Donc direct juste après tu dis je vais monter une agence ou est-ce que tu as un temps de réflexion,
j'étais un peu perdu
de,
à vrai dire,
repos
de
même prendre
non j'avais pas envie de surtout pas me reposer mais j'étais totalement perdu et j'avoue que je le voyais vraiment comme un échec parce que comme je l'ai dit on était monté très haut enfin j'étais très fier de ce projet en fait qu'on avait créé et j'avais presque honte en fait à la fin de me dire mais qu'est-ce que c'est devenu en fait. Donc heureusement qu'on a une sortie avec Webedia et que la plateforme existe toujours. Je me suis même amusé la semaine dernière à aller voir des gros blogs qu'on avait chez nous et qui existent toujours, qui sont toujours actualisés, ça m'a fait halluciner. Mais j'étais pas très bien à cette période parce que y a eu quand même le côté redressement judiciaire. Quand on est convoqué au tribunal pour la première fois, qu'on passe vraiment au tribunal où on a l'impression d'avoir fait une bêtise, alors qu'on était juste là pour créer un projet tout seul et essayer de faire vivre aussi des gens avec soi. J'étais pas très bien après ça. C'est pour ça que j'ai monté l'agence, que c'était un peu la simplicité. On me demandait souvent, c'est souvent le raccourci que les gens font quand on sait que tu travailles dans le digital. Mais quand j'étais gérant de cette boîte, en fait, on me disait tiens, Jonathan, j'ai un ami qui me dit qu'il aimerait avoir un site. Jonathan, est-ce que tu fais des applications ? Donc, ils ont tendance à tout mélanger. Je me suis dit la simplicité pour continuer à gagner ma vie et continuer à travailler, ça va être de créer une agence en fait où on va faire de la prestation parce que pour le coup, en 10 ans, j'ai appris énormément, que ce soit sur des mots qui n'existaient pas, du gros hacking, etc. En fait, c'est des choses que je faisais déjà, mais on n'avait pas ce vocabulaire-là. C'est-à-dire que faire des landing pages, ça a toujours existé. Il y avait énormément de choses qui existaient, mais on n'utilisait pas les termes d'aujourd'hui. Et nous, par contre, on conseillait des grosses boîtes là-dessus, bien avant que ces termes existent. Et ça se passait très bien. Et voilà. Mais pour moi, c'était pas vraiment une... C'était de l'entrepreneuriat, mais quand c'est comme dire je suis auto-entrepreneur, je ne sais pas si on peut dire on est entrepreneur quand on est auto-entrepreneur, parce qu'on est prestataire, mais pour moi, ce n'est pas vraiment entreprendre.
Il y a plein de manières d'entreprendre et chaque manière est différente. Enfin, même le portage, la micro-entreprise, le freelancing,
exactement.
C'est plein de formes d'entrepreneuriat qui effectivement ne sont pas les mêmes sur chaque aventure. Donc, on va pouvoir passer à Split qui est créé en mai 2019, oui. si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'amène justement à créer Split, en tout cas cette première landing page de ce premier produit?
Alors d'ailleurs mai 2019, t'as raison, ça c'est vraiment l'enregistrement de la société au registre du commerce, et c'est une erreur qu'on a faite parce que je conseille tout le temps aux entrepreneurs qui se lancent, montez votre société le plus tard possible. Je reviendrai peut-être dessus après, mais quand vous n'avez pas encore le produit, ça ne sert à rien de monter la société, parce qu'il y en a plein qui disent j'ai monté ma société, mais finalement c'est une coquille vide. Mmh. Et vous vous retrouvez quand vous voulez demander des subventions à la BPI qui vous répondent non, c'est 6 mois après la création de la société, donc c'est trop tard. C'est vrai que mai 2019, ça me paraît un peu tôt, parce que finalement le projet, on l'a réellement lancé, le vrai projet, en octobre 2019. Et l'idée de Split est née du coup en mars 2019, donc 2 mois avant la création de la structure, en échangeant avec des amis, on se disait finalement, on voulait profiter chacun d'un abonnement. En fait, je crois qu'on nous proposait Apple Music. De l'autre côté, il y en avait un qui me proposait Netflix. Et on faisait du troc d'abonnement finalement. Mais on s'est dit, ce serait peut-être plus sain de faire sous forme de partage financier. C'est-à-dire, même si c'est un petit montant, un micro-montant, comme ça, au moins, on ne se pose plus la question. Chacun paye sa place et on peut se prendre des abonnements qu'on n'aurait peut-être jamais souscrits. Et tout de suite, en fait, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Le réflexe que j'ai eu, c'était d'aller sur Lydia et de regarder si Lydia permettait les paiements récurrents. Et il n'y avait pas de paiement récurrent sur Lydia. Et ils l'ont mis en place un peu plus tard, mais ce n'est toujours pas du paiement récurrent automatique, c'est du paiement récurrent avec alerte. Donc, il faut penser tous les mois à activer, en fait, à accepter la récurrence. Sur PayPal, pareil, j'étais étonné. Je me dis, avec le recul, PayPal n'a toujours pas mis en place le paiement récurrent. Et du coup, on s'est dit, mais finalement, on va essayer de créer le Litchi, donc la cagnotte en ligne, mais du paiement récurrent pour du micro-paiement. Parce que finalement, du paiement récurrent, on pourrait nous dire aujourd'hui, mais toutes les banques le font. Donc, c'est vrai que mettre en place un paiement récurrent sur une banque, c'est très facile, mais on va le faire pour 20 euros minimum et encore, et sinon pour payer ses loyers. Mais on va pas le faire pour 2,50 euros pour envoyer de l'argent à François et en plus pour s'y retrouver dans ses relevés, c'est compliqué. Donc c'était vraiment le premier projet de Speed, c'était ça. C'était de créer cette petite cagnotte et cette fameuse landing page. Je mettais juste combien vous payez par mois. On ne demandait pas d'ailleurs si c'était un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify. On pouvait même dire je paye 30 euros de capsule Nespresso, au bureau on est 5, ça divise par 6 la note et chacun va verser 5 euros, il rentre sa carte bleue et tous les mois il ne se pose plus la question, ça va alimenter la cagnotte du propriétaire. Donc ça, c'était vraiment les prémices du projet. Et voilà, et en fait on a mis cette landing page au mois de juin, je crois, en ligne officiellement, et on a été médiatisé, mais c'est parti effet boule de neige. Je crois qu'il y a un premier article qui est sorti dans les Échos, les startup Échos, quelque chose comme ça, qui a été repris par toute la presse, par toutes les radios. J'étais en vacances avec ma copine et je me souviens, je voyais des alertes constamment. On était passé sur Europe 1 un matin, le lendemain on était chez Difool sur Skyrock. Et ils me contactaient même pas, moi je savais pas. Enfin, j'étais vraiment en vacances et je voyais des trucs, je disais c'est énorme. Et le problème, c'est qu'en fait on était médiatisé beaucoup trop tôt. Et il faut savoir, quand on monte une entreprise d'ailleurs, quand on fait des RP, il faut faire très attention au bon timing aussi pour les RP, parce que une fois qu'on a eu le buzz, une fois qu'on a eu cet effet vraiment où tous les médias vont parler de vous parce qu'il y a de l'innovation. C'est beaucoup plus compliqué de reparler de vous une deuxième fois, 6 mois après, 1 an, même 3 ans après, parce que l'effet buzz est déjà passé. Donc nous, on a communiqué beaucoup trop tôt parce que tous les gens qui venaient sur Split étaient vachement déçus. Les médias, en fait, parlaient de notre futur Split en disant ce service va vous permettre d'économiser, de partager vos frais Netflix, vos forfaits musique, etc. Finalement, quand tu allais sur la page, t'étais un peu déçu. Tu disais, ah oui, d'accord, c'est juste un truc qui me permet de simplifier mes paiements. Enfin, c'est via PayPal. Enfin, c'était vraiment... Voilà, de la petite construction maison qu'on avait fait. Et par contre, ce qu'on a gagné de ça, c'était un peu le prix à payer, c'est qu'on a eu beaucoup de retours utilisateurs qui nous disaient, et c'était vraiment pas l'idée qu'on avait au début, on trouvait ça un peu risqué de le faire, finalement, votre concept est bien, hein, l'idée est bonne, mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être mis en relation avec d'autres utilisateurs. Netflix, on va dire, c'est très facile de trouver des co-abonnés sur Netflix parce qu'ils ont un catalogue très large. Mais si vous regardez du manga, dans ton cercle familial, dans ton cercle d'amis, t'as pas forcément des gens qui regardent du manga. Donc des gens qui ont les mêmes appétences pour un service, c'est compliqué à trouver. Et on s'est dit, on va prendre le risque. On reviendra peut-être après sur ce côté risqué juridique du projet, mais on va créer le Blablacar de l'abonnement. Les gens qui ont des places vacantes sur leur abonnement, donc on va référencer uniquement les offres qui sont partageables. On va surtout pas référencer des offres pour un écran, des offres pour une personne, des offres étudiantes ou autres. On va référencer uniquement les offres les plus chères et les offres qui se partagent. Donc c'était un sacré boulot quand même de référencer tout le catalogue d'offres. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au début, je crois qu'on a lancé le projet au mois d'octobre avec une trentaine de services. Et finalement, c'est les utilisateurs qui nous remontaient des services qu'on ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, on a à peu près 150 services sur la plateforme qui sont référencés parce qu'on se rend compte qu'énormément d'éditeurs proposent des offres de partage d'abonnements sur leur plateforme.
Ok, donc, super intéressant. Vous avez fait évoluer le produit justement en fonction des feedbacks utilisateurs.
Exactement.
Et du coup, ce que tu me dis, c'est que vous n'auriez pas dû communiquer en amont, mais au final, ça vous a quand même apporté
exactement
le fait d'avoir ces feedbacks et donc de faire évoluer le produit et de répondre au mieux aux problématiques des utilisateurs. Donc au final, c'est pas mal.
C'est pas mal. Je pense que c'est un peu cher le prix à payer parce que, oui. En fait, finalement, quand je vois aujourd'hui la puissance des médias.
Des retours négatifs.
Surtout, le taux de rebond était énorme et la rétention. On avait très peu de rétention. C'est-à-dire qu'on a. Ouais, peut-être une personne sur 100 qui finalement passait, rentrait sa carte et payait sur notre service. Alors qu'aujourd'hui, on a des chiffres juste énormes. Ouais. C'est qu'on a 20% enfin 20% des inscrits qui transforment derrière parce qu'on a une plateforme qui a vraiment un UX très propre, qui est fluide, etc. Et c'est sûr qu'on aurait eu tous ces passages médias à l'époque, on n'aurait pas du tout eu les mêmes retours. Par exemple, typiquement, le fait d'avoir... On les avait déjà eu, en fait, des retours de gens qui nous disaient... mais ça serait bien de pouvoir partager avec des inconnus, notamment pendant le concours Plug and Start qu'on a fait. On avait eu ce type de demande en fait dans nos échanges, et on disait ah non, on n'y va surtout pas, c'est illégal, on le fera pas. Et quand on a vu en fait le potentiel et le nombre de personnes qui nous demandaient, on s'est dit il faut y aller en fait. On réfléchira plus tard, on va voir comment on fait les choses pour être propre et faire ça dans la légalité, mais il faut qu'on le fasse.
Ouais. Et donc en 2019, c'est aussi le moment justement où tu participes à Plug and Start. Est-ce que tu peux me raconter un peu justement le moment où tu candidates à cet événement et pareil me raconter, tu vois, un peu ce que ça t'a apporté vraiment sur les 3 jours en termes de d'évolution de ton produit et même de contact aussi potentiellement pour avancer sur ton projet.
Alors le contact c'est eux qui sont venus à nous, et en fait on a postulé, on a proposé le dossier et on était super fiers d'être pris en fait, parce que comme je le disais, on était encore sur un bout de papier, c'est-à-dire qu'on avait une landing page avec très peu de choses, on n'avait pas de business plan, et c'est vrai que beaucoup de gens en fait passent beaucoup de temps finalement à créer un business plan, essayer de faire quelque chose de très propre sur le papier et ne même pas mettre ses mains dans le cambouis et faire le produit à côté. Donc nous on avait plutôt un produit, on avait quand même au moins quelque chose qui existait en ligne, donc voilà, on avait ça à présenter. Et après, qu'est-ce que ça nous a apporté ? C'est qu'on a pu échanger vraiment avec des personnes qui sont totalement extérieures au projet et avec des âges totalement différents. Et on a eu beaucoup de retours. Bah, c'est ce que je te disais, ouais. Qui nous disait, mais tiens, je ne sais plus d'ailleurs, c'est une personne de la Technopole qui nous avait dit, tiens, moi, je regarde beaucoup de matchs de basket. Ton truc, c'est génial parce que j'ai une offre duo. J'aimerais trop la partager, mais moi, je ne connais personne ici qui regarde des matchs de basket. Et ça serait bien de pouvoir le partager avec des inconnus. Et on lui disait à l'époque, on a encore des doutes là-dessus. Pareil sur le business model, je crois qu'au début, on n'était pas du tout sur le même principe de commission. Au début, on voulait faire payer les propriétaires d'abonnements qui partageaient leurs abonnements. Et c'est en discutant avec notre mentor, d'ailleurs, du Plug and Start, qui nous a dit, mais finalement, vous savez, les propriétaires, c'est peut-être ceux que vous avez... Enfin, c'est l'offre et la demande chez Split. C'est peut-être plus compliqué de recruter des propriétaires que des co-abonnés, parce qu'ils font aussi une bonne affaire. Et il a dit, pourquoi vous ne mettez pas les commissions sur les co-abonnés plutôt que les propriétaires ? Et ça, cette décision, c'est tout bête, mais elle a été faite sur une discussion de 10 minutes pendant le Plug and Start, et c'est devenu notre business model, et on ne le regrette absolument pas.
Ok, super, super intéressant. Oui, parce qu'aujourd'hui, Split, c'est effectivement soit tu es propriétaire d'un compte et tu proposes des slots sur ce compte, soit inversement, tu recherches à rentrer dans un compte et à prendre un slot. Donc, soit tu es demandeur, soit tu es...
C'est ça. Ouais. Alors nous, on les appelle les propriétaires et les co-abonnés. Après, on peut avoir plein de termes.
Très bien.
Et ce qui est génial avec Split, c'est qu'on se rend compte que finalement, quelqu'un qui venait pour devenir propriétaire va très vite devenir co-abonné parce qu'il se prend très vite au jeu. C'est ça. Et on crée vraiment un cercle vertueux. C'est que la personne qui récupère de l'argent finalement de son partage, on était très étonnés d'ailleurs de ces chiffres. C'est qu'on pensait depuis le premier jour, parce que c'est gratuit de faire des virements sur son compte. Il n'y a pas de minimum. Donc même pour 1 euro, on peut virer l'argent sur son compte quand on récolte de l'argent. Bah, finalement, on a beaucoup d'utilisateurs, 30 à 40% des utilisateurs, qui réinvestissent cet argent pour prendre d'autres abonnements sur Split. Donc la réalité, c'est qu'ils ne font pas ça pour faire des économies dans leur budget quotidien, c'est qu'ils veulent juste souscrire à plus d'abonnements, répondre finalement à la demande du marché. C'est qu'aujourd'hui, on multiplie les abonnements, tout le monde crée des offres d'abonnements et ça devient impossible de pouvoir souscrire à toutes ces offres. Donc on aime bien se comparer un peu aux offres bundle de Canal+, qui en fait, avec un abonnement Canal+, ils vont vous offrir une dizaine de services. Bah là, finalement, Split permet de faire du bundle sur mesure.
Okay.
La personne qui était plus intéressée à ce type de service de musique, plus à ce titre de presse, à ce type de service de série ou des SVOD, il va faire son choix et grâce à Split, il va pouvoir faire son propre bundle.
Y a un vrai aspect communautaire aussi ?
Oui, qu'on est en train de pousser de plus en plus. C'est des grosses demandes qu'on a des utilisateurs, notamment sur la gamification, mais c'est des retours qu'on a qui sont très très fréquents, notamment sur nos avis, etc. C'est la bienveillance des utilisateurs entre eux. Ils s'appellent les splitters, ils sont donc vraiment on a, et ça c'était pareil, c'était des doutes qu'on avait tout au début et on pouvait absolument pas quantifier les problèmes qu'on aurait plus tard parce qu'on est les premiers à s'être lancés là-dessus sur ce marché, mais on avait beaucoup de commentaires très négatifs au début du lancement du projet qui nous disaient mais les gars, moi jamais je partagerai avec un inconnu, Et finalement, Blablacar a été confronté au même problème à ses lancements. C'est je ne voyagerai jamais avec des inconnus. Et ils ont réussi à faire évoluer les mentalités. Bah, sur Split, c'était pareil. C'est qu'au début, tout le monde nous disait non, mais un inconnu, c'est hors de question. Il peut me piquer ma carte bleue, il peut avoir ceci, cela. Mais ils se sont rendus compte à terme que déjà, c'était faux. Et en plus de ça, que les gens sont bienveillants. Ils sont tous là pour faire des économies. Et des plaintes, en fait, on était très étonnés. Et même avec le recul, avec le nombre d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui, on a très, 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 très peu de litiges.
Ok. Et on reprend un peu l'aspect chronologique du projet. On arrive en 2020. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'impact que la pandémie a eu sur ton business ?
Alors, on a un peu honte de le dire, mais nous, il était plus que positif.
Ah, mais n'aie pas honte. Dans plein d'épisodes, il y a justement. C'est pour ça que je le pose, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'impacts négatifs, mais il y a beaucoup d'impacts positifs aussi.
Ouais, bah nous, en fait, on était en plein dedans. Là, tout à l'heure, je parlais de mon autre projet, Stiker, qui lui, pour le coup, a beaucoup peiné, parce que c'est pour du tourisme et c'était très compliqué pendant les années Covid. Split, c'est tout l'opposé. C'est que les gens étaient cloîtrés chez eux, ils pouvaient rien faire d'autre que de s'abonner . Il y avait des problèmes financiers pour chacun, en fait. Et en plus de ça, on était en plein. Alors, au moment du Covid, c'est Disney Plus qui sortait, qui venait de proposer son service en France. Donc, on avait tout un tas de choses qui ont fait qu'on a totalement explosé nos chiffres en 2020. Ce qui a fait qu'on a une très bonne croissance en 2020 et ça nous a permis d'accélérer très vite. Tout était réuni finalement pour que ça fonctionne. Et en plus de ça, il y a plein de services par abonnement qui sont sortis qui n'existaient pas du tout avant. Par exemple, on avait commencé sur des thématiques qui étaient la SVOD, la musique et la presse, et le jeu vidéo aussi. Mais on a par exemple la thématique qui est sortie pendant le confinement qui était le bien-être, avec des offres de bien-être. Et voilà, donc non, pour nous, on va dire que le confinement... nous a aidé en tout cas dans notre croissance.
Un bon petit booster. Ouais. Est-ce que tu peux me résumer un peu ces années 2020, 2021 et début d'année 2022, un peu sur les enjeux de ces différents temps forts de l'entreprise.
2020, donc ouais, c'est vrai en plus que chaque année était différente pour Split. C'est-à-dire qu'en 2020, j'ai tendance à résumer cette année comme l'année R&D, c'est-à-dire qu'on a fait qu'évoluer on a appris avec nos utilisateurs, on a appris avec les arnaques possibles. Ça, je sais plus, c'était au Plug and Start d'ailleurs. Encore une fois, notre banquier qui est toujours le même aujourd'hui, qui participe en tant que jury au Plug and Start, qui m'avait dit « Jonathan, tu serais étonné de voir même sur des micro-montants le nombre d'arnaques que tu peux avoir ». Parce que moi, j'avais tendance à dire, tu sais, c'est du partage à 2 euros, 3 euros. Quelqu'un, avant qu'il puisse te récupérer en arnaquant des gens 300 euros, par exemple, parce qu'il partage des faux abonnements, il faut y aller, quoi. Et en fait, il avait totalement raison. Les gens sont prêts à tout pour trouver. Ils sont très, 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 très malins pour trouver des astuces pour pouvoir détourner un système. Et en fait, pendant 2020, on a un peu créé notre boîte noire et notre barrière à l'entrée aussi. Pour des futurs concurrents, c'est que même quelqu'un de très gros aujourd'hui qui aurait beaucoup de budget pour lancer un concurrent chez nous, il n'aurait pas ces petits secrets qu'on a qui font qu'on arrive à déceler en fait tout type d'arnaque possible. Et on est passé par des choses pas possibles, mais en tout cas 2020 c'était vraiment l'année R&D optimisation avec comme leitmotiv de se dire la communauté va faire que grossir. On a un business model où on est très peu rémunéré par utilisateur parce qu'on est sur de la commission. Donc il faut pouvoir scaler le produit le plus vite possible sans forcément embaucher 50, 100 personnes au service client pour gérer tous les litiges. Donc 2020, c'est vraiment une année où on a fait en sorte de tout scaler, y compris pour l'international, de préparer tout pour l'international. Donc voilà, c'était vraiment l'année R&D. 2021, ça a été l'année de l'international parce que mars 2021, on a lancé Split en Italie, en Espagne. On existait déjà en Belgique et en France, mais l'Italie et l'Espagne, pourquoi ? Parce que c'est le seul marché où on avait déjà un concurrent qui était présent depuis plusieurs années, bien avant nous, qui était très gros, qui s'appelle Together Price. Et on s'est dit, ils ont déjà en fait un peu évangélisé le marché, ils ont déjà ouvert le marché. Et quand on me demandait à l'époque de Split, quand on l'a créé, est-ce que vous avez des concurrents ? C'est top, vous n'avez pas de concurrents. On disait au contraire en fait, on préférerait avoir des concurrents parce que ça permet vraiment d'ouvrir le marché. Donc Together Price, on voulait aller sur leur marché, l'Italie et l'Espagne. Et on a lancé Split en Italie et en Espagne. On est très très fiers des résultats aujourd'hui. Et 2022, l'année de la rentabilité. On est très très content au bout de 2 ans et demi d'avoir une société qui est désormais rentable. On multiplie les pays à l'international parce que maintenant le site est disponible en 23 langues, si je ne dis pas de bêtises, dans toute la zone de la monnaie euro. Donc voilà, l'année 2022 va être vraiment l'objectif de multiplier nos utilisateurs en Europe, en tout cas pour le moment.
Ok. Et est-ce que tu veux me parler un peu du business model de Split ?
Alors, le business
model...
Combien
ça coûte ? Est-ce que c'est...
Alors, c'est... Ouais, c'est... Il y a deux types de tarifs sur Split. Soit on arrive en tant que propriétaire et là, ça peut être totalement gratuit. Si vous savez, parce qu'il faut savoir que sur Split, on a 25%, entre 20 et 25% des utilisateurs qui utilisent Split vraiment comme une solution de paiement, qui était, comme j'expliquais tout à l'heure, notre premier projet, quoi, qui n'était pas de mettre en relation avec des inconnus, mais d'utiliser Split comme le litchi de l'abonnement, en fait, la cagnotte qui va permettre de récupérer de l'argent, parce que ergonomiquement, c'est simple à comprendre. Donc ça, c'est totalement gratuit pour un propriétaire. Et il suffit qu'il envoie un lien sur WhatsApp, un lien par SMS et la personne en face va recevoir comme un Lydia, finalement tu payes et il rentre sa carte bleue où on a rajouté tout un tas de moyens de paiement. On est maintenant partenaire de Lydia aussi, donc c'est ça qui est assez drôle, où tu peux aussi payer avec ton Lydia. Et t'as le propriétaire qui lui veut partager avec un inconnu, donc là c'est différent, ça, c'est totalement gratuit pour lui, à l'exception que tu as des frais de mise en relation le premier mois uniquement. Donc les frais de mise en relation, pour te donner un exemple, on est à 25% du montant dans la limite de 1 euro. Donc tu peux pas avoir jusqu'à 2 euros, 3 euros de frais de mise en relation si tu récupères 15 euros. Le maximum, c'est 1 euro de frais de mise en relation. Et c'est pas toi qui payes finalement, c'est en soustraction de ce que tu vas toucher quand tu auras un co-abonné.
Oui, c'est prélevé directement.
Exactement. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que tu payes une seule fois, mais après ton co-abonné, et vu qu'on a un churn qui est assez bas, il peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour toi, ça sera... gratuit à vie en tant que propriétaire, parce que le virement, comme je le disais tout à l'heure, est totalement gratuit, il n'y a pas de minimum, tu n'as rien à payer en tant que propriétaire. Pour le co-abonné, quand il rejoint un abonnement, lui, c'est très simple, on l'affiche clairement, il n'y a pas de frais cachés, c'est 5% plus 35 centimes du montant. Et pour nous, c'est un business model qui est super intéressant, donc comme je le disais, c'est très peu de... On a une moyenne de 60, entre 50 et 60 centimes de commission par abonnement, donc il faut quand même beaucoup de volume hein, avant de faire des millions. Mais c'est super intéressant pour nous parce qu'on est sur un business de récurrence, donc on sait exactement combien on va faire le mois d'après et c'est rassurant finalement d'avoir, contrairement à ma première entreprise où on savait pas trop chaque mois ce qu'on allait faire, chaque mois là on est plutôt serein, on sait combien on réalisera en MRR.
Et donc aujourd'hui en termes de typologie d'abonnement, tu me disais qu'on retrouvait aussi du bien-être, pas que des abonnements comme Netflix, Spotify ou Prime Video. Tu peux me parler un peu de tout ce qu'on peut retrouver sur Split ?
Bien sûr. En fait, c'est aussi... on le présente souvent dans nos chiffres parce que c'est une fausse croyance de penser qu'on est Netflix dépendant. Et c'était souvent des remarques qu'on avait des premiers fonds d'investissement qui disaient « Ouais, les gars, si Netflix demain décide d'arrêter avec vous, vous êtes foutus. » La réalité, c'est qu'en effet, la SVOD est une grosse section chez nous parce que ça représente 49% de tous nos abonnés. Ce qui est pas rien, mais dans les 49%, Netflix est minoritaire parce qu'il y a plus de 30 plateformes de SVOD. Vous connaissez tous Disney+, OCS, Canal+, Netflix, mais il y en a énormément sur des thématiques précises. Donc voilà, la SVOD est notre grosse thématique. Ensuite, on a la musique avec des Spotify, Apple Music, Tidal et autres. On a ce qui fonctionne bien, on a la presse. Donc on est partenaire avec quasiment tous les titres de presse. Donc on est très fiers de ça. Et on a même réussi à faire signer l'équipe, dans le sens où quand je parle de signature de l'équipe, c'est qu'ils n'avaient même pas d'offre d'abonnement partageable. On les a rencontrés une première fois, on les a convaincus, ils ont créé des offres de partage spécifiquement pour pouvoir les mettre sur Split.
Trop cool.
On a les logiciels qui fonctionnent très bien. Donc logiciel, ça peut être du Office, ça peut être de l'antivirus, ça peut être du VPN. Les jeux vidéo. Donc la très très bonne nouvelle qu'on a eue récemment, c'est que alors, Nintendo Online est une offre qui se partage, ils ont un système de partage familial, mais PlayStation et Xbox, c'était un peu plus compliqué. Et la très bonne nouvelle qu'on a eue il y a quelques semaines, c'est qu'ils sont en train de sortir des offres de partage. Donc voilà, on va pouvoir être
génial.
Avec PlayStation et Xbox. Ensuite, on a le bien-être. On est en train de lancer en exclusivité une thématique banque. Je ne veux pas en dire plus pour le moment, mais on a signé un beau partenariat avec une néobanque et on est en train de lancer cette thématique. J'en ai oublié sans doute, hein. Je presse. Non, on a une dizaine de thématiques, mais voilà.
Donc vous n'êtes pas Netflix dépendant.
C'est ça qu'il faut retenir, exactement.
Voilà, exactement. Il y a tout un potentiel
qui ne fait que grossir d'ailleurs.
Ouais, donc je me fais pas trop de soucis. Est-ce que tu peux me rappeler un peu les chiffres sur Split, nombre de d'utilisateurs sur la plateforme notamment ?
Alors, on a eu un gros coup de boost là il y a quelques semaines suite à un passage télé. Donc on était, parce que dans ce reportage qui est assez drôle, c'est qu'on, je crois qu'ils avaient filmé notre compteur en fait avec les chiffres, on était un peu moins de 400 000 utilisateurs. Là, on a dépassé les 470 000 utilisateurs sur la plateforme. Dans ces utilisateurs, il y a deux types de clients. On a soit les propriétaires, donc on a environ 40 000 propriétaires actifs. Donc là, je parle uniquement vraiment des gens qui sont actifs et qui partagent avec des co-abonnés actifs. Et on devrait dépasser là ce mois-ci les 90 000. On arrive là déjà, je crois, sur cette semaine, sur les 90 000 co-abonnés payants actifs. Et le reste, en fait, finalement, c'est soit des anciens abonnés qui sont des abonnés, soit des curieux, soit des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur abonnement sur la plateforme.
Ok, qui n'ont pas encore trouvé, donc ils vont bientôt le trouver, l'abonnement.
C'est ça, j'espère. En fait, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs choses. C'est qu'ils peuvent être alertés quand... ils peuvent être alertés quand un service va être disponible. Comme je vous disais, c'est l'offre et la demande. Là, aujourd'hui, si vous allez sur Split, je crois qu'en ce moment, il n'y a plus d'offre Disney Plus ou OCS. Vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur être alerté, donc vous allez recevoir un mail, mais ça part très vite. Dès qu'il y a une place qui va se libérer sur un Disney, ça part en quelques secondes. Soit, et c'est là aussi où on se rapproche des éditeurs et qu'on arrive à travailler avec eux et qu'on arrive finalement à faire comprendre aux éditeurs qu'on n'est pas là pour parasiter leur activité, loin de là. C'est que finalement, on dit aux co-abonnés qui voudraient se co-abonner, mais finalement, va souscrire directement chez Disney+, et reviens le partager, tu verras que tu trouveras des co-abonnés immédiatement. Mmh. Et par rapport à ça, on est un apporteur d'affaires énorme pour les éditeurs, parce que des abonnés qui n'auraient jamais souscrit chez eux en direct vont finalement se dire bah, « si, en fait, je vais m'abonner parce que j'ai la sécurité de me dire je vais pouvoir soustraire un peu, amortir les frais en partageant mon abonnement. » Donc voilà.
Ok, et pour compléter, pour revenir sur les objectifs futurs, est-ce que tu m'as parlé d'internationalisation, de pousser vraiment ce côté international ?
Alors on a un peu appris avec l'Espagne et l'Italie, on a juste un problème, on va dire, qu'on n'aura jamais, donc quand on se lance à l'international, et ça sera le cas pour toutes les boîtes françaises, c'est qu'il y a le côté un peu cocorico. Nous on a été médiatisés parce qu'on est une start-up française, et forcément dans la presse ça aide. Donc on fait beaucoup de marketing en Espagne, en Italie, mais on se rend compte que si on veut faire du RP en Espagne, en Italie, on n'aura pas les mêmes retours qu'en France. Donc en termes de notoriété, ça va être plus compliqué d'atteindre la notoriété de Split en France aujourd'hui. Mais du coup, on a trouvé quand même le bon fonctionnement pour pouvoir faire décoller nos services, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a quasiment arrêté nos campagnes marketing parce qu'aujourd'hui, on fait 95% d'organique sur la plateforme. On avait pris le risque, là, il y a deux mois, de couper totalement nos campagnes marketing, absolument tout, se mettre à zéro pour voir en fait ce qu'il allait se passer au niveau des chiffres. Bon, on a battu des records en mars, on a battu des records en avril et en février. Donc on s'est rendu compte que finalement, le marketing pouvait être utile uniquement pour lancer des nouveaux pays. Et vu qu'on a un service qui se partage très facilement, des gens en plus qui au début sont souvent réticents, qui une fois qu'ils l'utilisent ont tendance à le partager, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc on est en train de lancer donc l'Espagne, l'Italie, on a repris nos campagnes marketing, et l'idée là c'est de lancer l'Allemagne et UK très vite aussi pour faire reproduire ce qu'on a réussi à faire en Espagne, en Italie, à savoir que l'Espagne et l'Italie représentent aujourd'hui 15% de notre base d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien.
Ouais, clairement.
Surtout quand on n'est pas, voilà, on n'est pas issu du pays.
C'est clair, ok, super intéressant. Et effectivement, il y a de beaux projets à venir. On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux questions sur ton aventure. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? L'aventure Split.
Ah, d'accord, parce que tu me vois venir.
C'est la dernière aventure, ouais. Là, c'est vraiment le bilan de Split.
La plus difficile, alors c'est toujours pareil, ça paraît cliché de dire ça, mais c'est les montagnes russes en fait. Et ça a toujours été, hein, dans ma précédente boîte, comme dans Split, on a eu des très très mauvaises nouvelles, des craintes vraiment énormes et des bonnes nouvelles. On va dire qu'en ce moment, alors j'espère, et je le dis tout le temps autour de moi, en ce moment on est, voilà, si on parle de
des montagnes russes.
De montagnes russes, merci. En fait, là, en ce moment, on est en haut des montagnes russes parce que je trouve que tout s'aligne bien, tout se passe très, très bien. Et j'ai juste peur de la chute à un moment. Tu vois, j'ai peur qu'il y ait un truc qui arrive. Donc je croise les doigts. Le pire des moments, honnêtement, il y a des choses. En fait, je ne peux pas malheureusement partager certaines choses qui se sont très bien finies finalement. Mais voilà, on a eu des courriers qui nous ont fait très peur, mais qui finalement se sont transformés en opportunités. Donc c'est génial. Mais on a eu des très, très grosses craintes, ouais, fin d'année dernière notamment.
Ok. Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
Alors, on est fier. Alors, de quoi on est fier chez Split ? On a pas mal de choses. Hein. C'est qu'on, là-dessus, on se cache pas. C'est qu'on est parti sur un business qui était quand même assez risqué. On parle souvent de zone grise, et je sais qu'il y a énormément de sociétés qui ont été confrontées à ces problèmes, hein, que ce soit même des sociétés connues, Airbnb, Uber, etc., qui ont lancé parfois des business qui étaient même Blablacar, qui n'avaient pas le droit en fait de faire voyager des inconnus au niveau des assurances, c'était compliqué. On est assez fiers finalement d'avoir réussi à faire comprendre aux éditeurs que ce qu'on faisait n'était pas quelque chose pour parasiter leur activité. J'ai envie de dire, c'est presque du lobbying, parce que là, on est en train de faire en fait finalement ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on est en train de démontrer aux éditeurs que c'est intéressant pour eux de laisser ce partage d'abonnement s'il est contrôlé. Mais ce qui veut dire que demain, quand tous les éditeurs nous auront donné leur autorisation et qui communiqueront presque dessus, bah, on va avoir un lot de concurrents qui vont arriver. Et c'est nous qui aurons investi tout notre temps et notre argent, on va dire, pour essayer d'évangéliser tout ça. Et donc, c'est la fierté, c'est de se dire, bah, notamment, je te parlais de l'équipe, que l'équipe accepte de créer des offres. Tu as d'autres plateformes qui nous ont contactés pour créer des offres sur mesure, etc. Finalement, de se rendre compte que même des très, très gros éditeurs qui nous voyaient d'un mauvais œil au début finissent par nous voir plutôt d'un bon œil. Donc, on a créé un marché, en fait. Donc là-dessus, c'est plutôt une fierté.
Très simplement.
Voilà, pour résumer.
On va pouvoir passer à la partie rencontre mindset et entrepreneuriat. Et la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ?
Oui, bien sûr. Une rencontre, en tout cas pour Split, c'est la rencontre avec notre nouvel associé, Guillaume, qui est un ancien d'Apple, qui était rentré dans le projet en tant que business angel. Donc il investissait dans quelques startups, c'était sa passion à côté de son job chez Apple, et il s'était toujours promis de faire qu'une seule chose, c'est d'investir dans des sociétés et de ne rien, absolument rien faire dedans. Et là en fait il a renoncé à tous ses principes, il s'était mis en congé sabbatique d'Apple pour essayer de faire décoller Split avec de leitmotiv, de se dire je veux développer l'international parce que Split finalement est une idée universelle. Très facile à dupliquer, et on ne veut pas être les premiers en France en fait, on veut aller très vite à l'international pour ne pas voir des reproductions en Allemagne de Split, donc il faut qu'on aille très très vite à l'international, et ça on l'a plutôt bien réussi. Et la deuxième chose c'était de se dire moi j'investis pas dans la société si les éditeurs ne sont pas de notre côté, donc c'est d'aller rencontrer les éditeurs un à un, de leur présenter les bienfaits du modèle. Et là-dessus, il est très très bon parce qu'il a un côté rassurant et il sait vraiment bien présenter les choses avec des chiffres qu'on a, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on est capable de vraiment démontrer de belles choses aux éditeurs. Et à côté de ça, en fait, son expérience, c'est que moi, je l'ai pas dit, mais je suis peut-être serial entrepreneur, mais je suis un super mauvais manager. Je sais pas manager une équipe. J'adore développer, j'adore faire mes trucs de mon côté, j'adore développer des produits, mais dès qu'une équipe grossit, ça devient catastrophique. Et en fait, Guillaume est un super manager. Il nous a inculqué plein de choses, et notamment sur, j'en ai pas beaucoup parlé, mais sur le service client de Split, qui est pour nous la priorité absolue chez nous, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'organique, mais surtout de rassurer les gens qui seront un peu réticents de partager des abonnements. On fait partie des startups les mieux notées de Trustpilot, on a 4.9, donc c'est la note maximale avec, je crois, 1700 ou 1800 avis cumulés, donc ce qui est pas mal du tout. Et en fait, il a mis en place tout un tas de choses en fait pour respecter le client, des choses que je n'aurais jamais fait avant, et j'ai honte de le dire, mais sur ma première expérience entrepreneuriale, finalement le client, on avait des millions de blogs et moi je me disais ça tourne comme ça, enfin il n'y avait pas tellement ce, là aujourd'hui on a beau avoir 500 000 utilisateurs, quand on a un utilisateur qui a un problème on peut même prendre le téléphone, ça m'arrivait encore il y a deux semaines d'appeler un client parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé, etc. C'est des choses qui nous a appris et qui fait qu'on a un service client juste parfait. Donc voilà, c'est la belle rencontre de Split, et c'est une rencontre qui va nous aider en tout cas à grossir.
Juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le fait que tu étais un mauvais manager, l'entrepreneuriat et le management ne sont pas du tout reliés.
Ça peut être relié dans le sens où si tu ne sais pas être accompagné là-dessus, c'est compliqué.
Et d'ailleurs, souvent on parle de passer d'entrepreneur à manager, qui sont deux métiers. De compétences totalement différentes. Ouais. Donc c'est intéressant que tu en aies parlé. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire en particulier ?
À titre perso, moi, il y a des personnes que j'adore écouter, mais parce qu'en fait, on se ressemble indirectement, en fait. Mais dans leurs projets, dans leurs idées, je vais te citer quelqu'un que tu as reçu en plus. Donc c'est pas pour lui faire de la pub, mais parce que j'adore l'écouter, c'est Wilfried, le CEO de Superprof. Parce qu'il est super transparent dans dans sa manière d'expliquer les choses. Superprof, il a lancé avant Split, et c'est vrai que le fait d'écouter ses passages, ses podcasts, ça me motivait à re-entreprendre en fait. Il est super simple dans sa façon d'expliquer les choses, et ça me donnait envie de relancer mon projet parce que ça me faisait penser à ma première expérience entrepreneuriale. Moi, il m'inspire énormément parce que finalement, dans nos deux business, et on en a parlé récemment là-dessus, mais c'est très très proche finalement ce qu'on fait entre Superprof et Split. Mmh. Donc il m'a motivé en tout cas pour me relancer sur Split notamment.
Ouais, puis il a un dynamisme hyper communicatif. Ouais, donc,
carrément.
ça marche très bien. Et la dernière question sur cette partie, c'est quel conseil justement tu donnes aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ?
Il y en a plusieurs. Donc après, si je dois donner des conseils concrets comme ça, au moins ça va vraiment servir sur une to-do list. Je l'ai dit récemment à des amis qui montaient une société, mais il y a plusieurs choses en fait, plusieurs choses quand on se lance, mais je l'ai donné un peu tout à l'heure. L'erreur à ne pas faire, c'est de créer une société quand on n'a pas créé le produit. L'erreur à ne pas faire, c'est quand on veut lancer un produit, ne pas avoir de CTO dans sa boîte ou ne pas être à l'aise du tout avec la technique, parce que voilà, c'est très compliqué. Donc un conseil, c'est créer d'abord votre produit, tester très vite votre produit, quitte à acheter un peu de Google AdWords. Vous avez des bons d'achat gratuits, vous pouvez les tester, vous pouvez et avoir des premiers retours clients, parce que finalement, c'est ce qui nous a permis d'aller plus vite sur Split. Nous, on a eu malheureusement des passages presse, enfin malheureusement et heureusement, mais ce qui nous a permis d'avoir des retours très vite et de se dire bon allez go, on se lance là-dessus. Donc voilà, mon conseil, c'est de créer la société le plus tard possible, mais de se focus à fond sur le produit qu'on veut proposer.
Ouais, et puis surtout qu'une société, ça se crée aujourd'hui assez rapidement.
Très très simple.
Donc
c'est extrêmement un peu... simple. Et les gens qui me disent bah tu vois je suis entrepreneur, j'ai créé une société, enfin ouais, c'est vrai qu'il y a 15 ans quand j'ai créé ma première boîte, c'était pas aussi facile.
C'est
là
clair,
aujourd'hui
pour
pas leur faire de la pub, mais tu vas sur Legalstar, t'as tout qui est inclus dedans, tu crées ton compte sur Konto, si demain t'as des salariés, tu prends Payfit
48 heures ton numéro tirette voilà.
Ouais, c'est ça. Donc c'est là-dessus pour moi, c'est même plus un sujet de créer une entreprise en France, c'est juste qu'il faut pas créer une coquille vide, et ça peut même vous entraîner des problèmes derrière, parce que si vous voulez être aidé par la BPI, vous allez passer pour une société qui finalement est trop vieille, trop âgée pour avoir des aides.
Ouais, exactement. Et bah, écoute, c'est un bon conseil. On va pouvoir passer à la partie finale du podcast avec trois petites questions. Y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Ça peut être sur Split, sur ton aventure, sur quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant potentiellement ou pas ?
Non, parce que finalement, sans que tu me les poses, j'y ai répondu dedans, en fait, quand je parlais aux éditeurs, parce que souvent, c'est un tabou, en fait, et quand on a des médias qui nous interrogent, je préfère même leur dire, mais parler de la zone grise, parler de la légalité du projet, parce que, voilà, nous, on sait y répondre maintenant, et on est plutôt serein. Il y a 2 ans, j'étais pas à l'aise du tout, et c'était presque un piège quand un média me posait cette question. Donc là, on est plutôt serein, mais tu vois, quand je te répondais, tu m'as pas posé la question directement, mais comment vous voient les éditeurs? Est-ce que vous avez eu des plaintes? Est-ce que vous avez eu des choses comme ça? Bah finalement j'ai fait comprendre,
t'y as répondu voilà, indirectement
qu'on avait des
sujets, ouais.
Donc
vis-à-vis
non,
de Netflix aussi, sur la dépendance potentielle vis-à-vis de Netflix.
Exactement.
Voilà, c'est...
non, il n'y a pas de question, voilà. Okay. où est-ce qu'on est si chez Split on est splitté, donc voilà, je voulais le placer, ce jeu de mots, hein. on a des équipes à 3, on est dans l'Arche de la Défense à Paris, moi pour ma part je suis à Bordeaux depuis le mois de novembre et j'adore ma vie à Bordeaux. Guillaume, mon associé, est à Lyon. On a un autre associé à Rennes. Voilà, on est très splitté, et ça marche très bien comme ça.
Très bien. Et du coup, la deuxième question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes ?
Alors, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, François. Donc c'est compliqué parce que tu vois, quand je regarde l'historique, j'en ai déjà vu 3 qui me parlaient, mais finalement, je vais pas les proposer. Non, je vais en proposer un qui. Bon, il y a un petit intérêt derrière de le dire, mais c'est le cofondateur, mon cofondateur pour Stiker, c'est Julien Boisseau. C'est un super projet et là on est en plein, enfin on est sur des très très gros contrats, on va dire. Et je pense que ça peut être intéressant de voir l'histoire de Stiker, parce que Stiker, c'est l'exemple parfait des choses qu'il ne faudrait pas faire. c'est-à-dire qu'on a créé la société beaucoup trop tôt avec une coquille totalement vide, ce qui fait que finalement, on a totalement bootstrappé, on n'a jamais levé de fonds sur cette société. On a mis énormément de temps, à arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et du coup, on n'a eu aucune aide de qui que ce soit, parce que la société est trop vieille, parce que ça peut aussi faire peur à des fonds d'investissement de dire « Mais attendez, la boîte est créée en 2017, votre produit, là, vous commencez à faire du chiffre que depuis l'année dernière. » Donc je pense qu'il a plein de choses intéressantes à raconter là-dessus, et il est aussi agréable.
Super. Bah, écoute, je note la reco. Ça peut être effectivement un épisode assez intéressant. Et la dernière question justement que je vais te poser, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné déjà. Je le vois parce que tu as des. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore participer à des événements comme Plug and Start, que j'adore chaque fois qu'il y a des événements organisés dans différents écosystèmes. Il faut savoir qu'à Bordeaux, on a créé un club entre nous juste pour se rencontrer entre entrepreneurs. On a commencé ça il y a 3 mois et là, on se rend compte que finalement, on est tous des passionnés parce qu'on est passé de 5 à 40 en quelques mois. Donc il faut être passionné et il faut. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Voilà, c'est ça un entrepreneur pour moi. C'est soit choisir la sécurité, soit vouloir prendre des risques et s'amuser.
Bah, ce seront les mots de la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, évidemment, on rappelle qu'on a jusqu'au 20 mai pour candidater à l'édition spéciale des 20 ans de Plug and Start, qui a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain. Et donc, justement, pour un très bel événement pour de très beaux projets qui vont potentiellement arriver aussi haut que Split.
Carrément. Non, franchement, il faut y participer. C'est deux jours. Alors, j'espère qu'il fera beau, mais c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ces dates. Mais voilà, ouais. c'est un pur kiff.
Ça devrait le faire.
Merci beaucoup. François.
Ciao, ciao.